Avant d'aller plus loin, un coup d'œil à la circulation, 15h26. Audrey.
Déjà quelques ralentissements si vous êtes sur la capitale, direction est entre Henri IV et Laurentienne. Ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne que ça commence à ralentir. Henri IV sud, à partir de Versant Nord, ça se fait sentir jusqu'à l'entrée des ponts. Si vous êtes en passant sur la route de la Bravo dans les deux directions devant la base militaire dans le coin de Shannon, il y a déjà un ralentissement à prendre en compte.
Dans aussi, hein?
Ça me rend émotif, tout ça, héros. La 20 direction ouest, ça se passe à la hauteur de Chemin des Îles sur la rive sud. Évidemment, il y a quoi que ce soit, 88-971-1021, texto.
Des chiffres, dans l'actualité, il y en a beaucoup. Puis il n'y a rien de plus cruel qu'un chiffre, parce que le chiffre impressionne. Mais on oublie les humains, puis souvent, on oublie les histoires. Tu sais, le chiffre 4000, ça impressionne. Mais si je vous dis 4000, c'est 4000 histoires, c'est 4000 humains, c'est 4000 familles, on dirait que ça replace un peu les choses dans leur contexte. J'ai pas pris le chiffre 4000 par hasard, il était dans les journaux de ce matin. On estime à près de 4000 élèves en difficulté qui risquent d'être privés de services permettant de prévenir le décrochage scolaire cette année. On dit que ça représente une crise sans précédent dans le réseau scolaire, puis c'est le milieu communautaire qui a comme levé des drapeaux rouges, puis... Tu sais, d'un côté, tu as le discours des ministres qui se veut toujours rassurant puis qui dit non, c'est pas les plus éclopés, puis c'est pas les élèves en difficulté, puis c'est pas les élèves qui ont des besoins spécialisés qui vont écoper le plus. Mais sur le plancher des vaches, trop souvent, c'est ça la vraie histoire. Le chiffre 4000, c'est une chose, mais derrière le chiffre, il y a 4000 histoires. Puis en voici une parmi tant d'autres, puis je veux saluer notre auditeur Pierre-Marc qui a attiré notre attention sur cette sortie qui a été faite sur les réseaux sociaux, sur une mère inquiète qui est dans une situation, j'allais dire particulière, mais tabarnouche.
Des à parents, 4000, c'est plus particulier.
Oui, des parents qui sont aux prises avec ces besoins-là pour leurs enfants. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus parce que plus ça va, plus on est capable de diagnostiquer les besoins des enfants. Puis à partir de ce moment-là, ben on a des recettes, on a des outils. Mais à partir du moment où on coupe, concrètement, il y en a qui perdent leurs outils. Puis il y en a qui perdent leur aide. Annick Pitre est en studio avec nous autres. Annick, bonjour.
Allô.
Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Je veux que tu prennes le temps de nous raconter ton histoire. Tu as combien d'enfants?
J'ai une fille.
Une fille, elle a quel âge?
Elle a 7 ans.
Elle a 7 ans, OK. Raconte-nous, c'est quoi ses besoins? Puis si c'est pas indiscret, c'est quoi la situation? Quand est-ce que vous vous en rendez compte? Puis qu'est-ce que ça amène comme réflexion puis comme besoin?
Parfait. C'est ça, je suis maman d'une petite fille de 7 ans qui a une paralysie cérébrale, dans le fond.
Okay.
C'est une anoxie là, qu'elle a eue à la naissance. Donc, tu sais, au départ, on pensait que ça allait être une naissance tout à fait normale. Puis avec l'accouchement difficile, ben ça a fait qu'on a eu... Elle a été diagnostiquée avec une paralysie cérébrale. Ceci étant dit, elle a toujours eu un parcours un peu atypique avec des professionnels exemplaires. On a eu vraiment des gens autour de nous là, qui ont fait... ça a été une deuxième famille, là, je vous dirais.
Vous avez été bien accompagnée dans tout ça.
Absolument, absolument, une chance. C'est quand on arrive dans le cours des grands puis qu'un peu on nous lâche la main que ça devient une autre game, dans le fond, dans le sens que ça vient avec les services qu'il faut qu'on ait au jour le jour dans le milieu scolaire, entre autres. Fait que dans le fond, la particularité de mon témoignage venait du fait qu'on a perdu des services. Fait que Anne-Ève, elle a été dans une école spécialisée, dans le fond, dès le départ. Puis, avec une évaluation là, de ses capacités, tout ça, la professeure, elle a dit qu'il faudrait qu'elle aille dans une autre école. Parce qu'à la première école, elle avait déjà un service de garde. Quand elle est arrivée dans sa deuxième école, il n'y avait aucun service de garde à cette école-là. Fait que c'est pas de leur faute. Là. C'est comme ça que c'est fait. Ensuite, on a cherché un service de garde là, pour elle, pour, dans le fond, les soirées, puis les journées pédagogiques.
Ce qu'il faut comprendre là-dedans, Annick, c'est que les acteurs sur le plancher qui en voient passer beaucoup sont en mesure de vous indiquer ça, c'est l'école qui va être la mieux désignée pour les besoins de ton enfant, puis ça va peut-être l'aider à se développer davantage, s'émanciper davantage.
Exactement. Exactement ce qu'ils ont fait à la première école, c'est dire...
Ouais.
Si on veut la tirer vers le haut, ça serait mieux qu'elle aille dans ce parcours-là.
C'est pas un problème de personnel. Le personnel qui est là, qui est présent, c'est des gens impliqués puis c'est des gens qui vous aident.
Absolument. Puis à ce niveau-là, on avait vraiment de bons services avec des personnes extraordinaires autour d'elle, une belle équipe, mais justement qui ont voulu dire on veut qu'elle évolue, oui. On veut qu'elle continue d'évoluer. Fait que ce serait mieux qu'elle aide vers ces services-là. Mm-hmm. Après, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi une école de bassin pour être son école où elle aurait un service de garde. Notre école de bassin dans notre région à nous, en fait, n'était pas adéquate pour un enfant avec des besoins particuliers. Donc, on a ciblé une école de bassin pour être l'école où elle aurait un service de garde.
Hey, concrètement, si ce n'est pas indiscret, c'est quoi les besoins que ça implique sur le day-to-day?
Très bonne question. En fait, c'est qu'elle a... Elle a un problème de motricité, mm-hmm. Elle a un problème aussi d'équilibre, tout ça. Fait qu'on peut la mobiliser avec un fauteuil roulant, okay. Mais elle est capable de marcher aussi. La particularité, en fait, c'est qu'elle a un équilibre précaire, un peu épeurant pour des intervenants qui sont avec elle. Ce que ça implique au day-to-day, c'est que c'est une personne en un pour elle. Okay. Fait
c'est toujours une accompagnatrice ou un accompagnateur.
Il est là l'enjeu. Puis mon message fort, c'est d'être la porteuse de voix de quand on est rendu à avoir des services en un pour un. Ça vient nous chatouiller, je pense, les parents d'enfants avec des besoins particuliers parce qu'on se dit si c'est un enfant typique, ben on l'aurait pris puis on l'aurait mis dans un autre groupe probablement pour essayer de trouver. Puis ça, c'est ma perception de maman émotive. Mm-hmm. Puis si, mettons, c'est un groupe de trop parce qu'on n'a pas l'éducatrice pour le groupe de 20, bien, on va peut-être mettre 20 personnes, 10 personnes d'un côté, 10 personnes de l'autre côté pour faire des groupes de 30.
Pour s'ajuster, oui.
Pour des enfants typiques. Mais un enfant typique, on fera pas ça.
Quand on sait qu'on a des besoins particuliers en tant que parent puis qu'on écoute un bulletin de nouvelles à radio ou un bulletin de nouvelles à TV puis qu'on entend qu'il y a des coupures qui s'en viennent, est-ce qu'à chaque fois, on vit un stress ou on essaie de se détacher de ça?
Le plus gros impact, c'est le stress que ça va venir faire. Parce
on
que
a tout le temps l'impression que c'est le nôtre qui va être coupé en premier. Hein?
Bien, entre autres. Puis, tu sais, c'est des impacts directs parce qu'on sait que nous autres, ça va être nous autres le 1 pour 1 après. Mm-hmm. Si le 1 pour 1, il n'est pas là la journée qu'elle va à l'école, elle pourra pas aller à ses activités. Puis, tu sais, ça va dans les camps de jour, ça va dans les activités. Tu sais, les activités pour les enfants avec besoins particuliers, il y en a. Mais comme... Pour dire un exemple, les camps de jour, ben on va avoir un autre enjeu de, tu sais, c'est-tu adapté pour la personne ou c'est contingenté, gros de même. Fait.
Puis dans le cas présent, Annick, si j'ai bien compris, c'est que vous aviez un service de garde, puis là, vous en avez plus, c'est ça?
Exactement. Dans le fond, en 2024-25, on a eu une diminution. Ça s'est devenu un service de garde à temps partiel. Puis à un moment donné, on a dit, bien, pour les journées pédagogiques, on va vous faire des demi-journées. Puis jusqu'à cette année, se faire dire, il n'y aura aucune ressource pour vous cette année.
Fait, quand est-ce qu'on vous a dit ça?
Ben, au début de l'année, là, je vous dirais. Là,
comme les autres.
Ouais.
Parce que pour ceux qui ont perdu des programmes sport-études, pour les gens qui ont perdu certaines dispositions, tout le monde s'est retrouvé un peu dans le même canal. Les gens qui ont eu des modifications au niveau de leur transport scolaire, ouais. Ils étaient payés avant, ils n'est plus payés.
C'est toutes
des affaires de dernière minute. Puis ça empêche les parents de se revirer de bord. Puis j'imagine que dans votre situation, je veux dire, c'est encore pire. Là. Vous faites quoi, là?
Bien, c'est ça. C'est que, tu sais, on n'est pas tous multimillionnaires. Là. Mm-hmm. Les journées de pédagogique où ce qu'il faut que je prenne congé ou que mon conjoint prenne congé, c'est une journée perdue.
Ça a un impact au travail.
Exactement. Puis, tu sais, l'école finit à 15h12. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de population qui finissent à 15h, ben 14h30 de travailler.
Il y en a pas des
tonnes.
Pour
être chez eux, tu sais, à l'heure pour accueillir l'enfant. T'sais. Ma fille arrive à 15h30 chez nous, là, ces jours-ci. Mm-hmm. Fait que, tu sais, Dieu merci, j'ai un conjoint qui travaille de nuit puis qui a raccourci ses heures de sommeil
pour l'accueillir d'être là, ouais.
À tous les jours. Tu sais. Fait que ça a un impact sur l'organisation familiale complètement, un impact financier parce que, je veux dire, j'ai pas 20 journées de congé pour les 20 pédagogues de l'année parce qu'il y en a 20 pédagogues dans une année. Fait que, tu sais, ça vient mettre des impacts importants à divers niveaux. Puis l'impact le plus important, je dirais encore, c'est que nous, depuis le début, Anne-Ève n'était pas supposée marcher, elle n'était pas supposée de se mobiliser. Puis on a toujours misé sur rendre sa vie le plus normale possible.
Ouais. Fait qu'elle dépasse vos attentes même.
Elle dépasse nos attentes. Puis là, on a un enjeu de même pas la mélanger avec les enfants. C'est ça, exactement. T'sais, on vient reculer d'un pas.
C'est choquant parce qu'on voit que quand l'encadrement est là, elle est capable de progresser. Puis là, on coupe cette progression-là. Puis vous êtes un peu laissé à vous-même. Avez-vous le temps de faire des démarches? Avez-vous le temps d'essayer, je ne sais pas moi, de rencontrer un député, des politiciens, les gens de la commission scolaire pour voir ce qui était possible?
En fait, ben, ça a débuté là, avec des discussions dès l'année passée. En fait, des discussions avec la commission scolaire, tout ça pour... Parce que c'est pas qu'on n'est pas empathique
On comprend votre situation en partant.
Oui,
c'est
ça, exactement.
Mais on a-tu des solutions à vous proposer?
Exactement, c'est quoi les solutions? Puis je vous dis, moi, là, je serais partante à retourner dans mon ancienne école pour qu'on le service de garde, si vous êtes capable. Mais des coupures, il y en a partout. Ce bout-là, je le comprends. Après, ben, quand on est puni de ça, ben, c'est difficile. Puis le message, c'est pas pour taper sur les doigts de personne parce qu'on a eu vraiment des belles équipes autour de nous, puis de la collaboration aussi de toutes, même la commission scolaire. Mais là, ce qu'on veut, c'est dire... Il faut que ça vienne d'ailleurs. Fait que oui, j'ai fait des démarches, j'ai écrit aux députés de mon district, puis on a mis la publication sur Facebook, ça a eu 219 partages. Fait que là, je vous remercie tellement de m'avoir reçu parce que ça fait partie de ça, justement.
Quand vous publiez ce message-là, est-ce que vous recevez des messages de parents qui sont dans des situations qui ressemblent à la vôtre?
Je pensais en avoir plus, mais il y en a eu quelques-unes.
Okay.
Puis entre autres, j'imagine que c'est une éducatrice ou un professeur qui a dit comme « On le sait qu'on est en train de diminuer notre service, aidez-nous à vous aider. » Dans le fond, qu'elle disait, j'ai trouvé ça super beau ce message-là qu'elle disait, parce qu'elle disait « On les aime, vos cocos, on veut les aider, mais comme on n'a même plus les ressources pour... »
Pas notre choix, c'est
ça. Fait qu'elle était comme criée pour les aider. Fait que j'apprécie parce que je pense... que c'est quand même compris, même si ça a l'air d'être un message contre quelqu'un, c'est pas ça, c'est pour ma fille que je donnerais n'importe quoi pour.
Quand on a eu les annonces de coupe, on se posait la question autour de la table, tu sais, est-ce qu'il y a des écoles et il y a des gens qui vont faire en sorte que des services très rapidement vont être coupés pour mettre de la pression sur le gouvernement? Mais avec l'éclairage que vous nous donnez, c'est pas des gens qui veulent... faire de la pression sur le gouvernement. C'est des gens qui veulent aider nos jeunes.
Mais qui n'ont pas d'autre choix.
Mais qui n'ont pas d'autre choix, puis qui n'ont pas d'autre recours. Puis là, il faut couper, puis c'est toujours la minorité qui écope, là, à quelque part.
Exactement.
Là. Ah, c'est triste. C'est triste. Vraiment. Fait que c'est quoi le scénario que vous avez pour cette année, là, au moment où on se parle, là?
Bien là, pour l'instant, on accueille Anaëve à la maison au lieu qu'elle aille dans un service de garde quand elle arrive de l'école à 3h30. Puis pour les pédagogues, on va prendre des journées de congé. J'ai échelonné mes semaines de vacances, en fait, pour les mettre sur les journées pédagogiques. Fait qu'à place de prendre des semaines de vacances, je les ai mis en journées fractionnées pour pouvoir subvenir à ce besoin.
Alors que souvent, ces journées-là, passant en service de garde, c'est une manière de s'intégrer, de se stimuler, de faire de nouvelles rencontres. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ce côté-là aussi. Vous avez l'impression qu'elle va être à part de tout le monde encore. Là.
Exactement. Puis, tu sais, je l'ai nommée à la commission scolaire parce que, étant donné qu'elle est dans une école spécialisée, elle est toujours avec des enfants à une école spécialisée, ce que j'aimais du service de garde, c'est de la mélanger dans un univers avec des enfants.
Ouais. Il y a une inclusion qui se produit à ce moment-là.
C'est exactement ça. Puis, ce petit côté d'inclusion-là, puis de bienveillance que ça amène des enfants typiques aussi qui interagissent avec elles. On a été très impressionnés de ça au camp de jour cet été, à quel point les enfants prenaient soin d'elles.
Oh, wow. Ben oui.
Fait que tu sais, je me dis, la mélanger avec ces enfants-là, parce que tu sais, elle a un problème de langage, donc c'est juste avec des enfants qui ont des problèmes de langage, elle ne verra jamais c'est quoi la normalité, tandis qu'au service de garde, c'est ça que j'aimais, c'est qu'elle avait son école spécialisée pour ses besoins à elle, puis après, elle était mélangée dans les enfants, avec les enfants typiques, puis qu'eux autres aussi, ça changeait leur vision un peu avec elle.
Il y a cette perception-là, mais il y a aussi la perception de tu sais, tu parles de tes vacances, là. Moi, je trouve ça épouvantable de penser que dans une année où tu travailles comme tout le monde, puis tu as besoin d'un break mental comme tout le monde, tu ne pourras pas l'avoir, ce break mental-là, parce que tu es obligé d'utiliser ces congés là pour rester à la maison, prendre soin de ta fille. T'sais. J'ai comme l'impression que c'est un cercle vicieux dans lequel on entre aussi. Là,
les vacances, c'est un temps de qualité mentale. Aussi avec ta fille, dans un autre contexte. Là.
Absolument, il y a tout ça. Là.
Ben exact, dans un autre contexte que d'être à la maison une journée coupée. Ouais. C'est pas comme
si tu peux faire un projet. Hein?
Exactement.
Savez-vous jusqu'où ça peut aller, la réadaptation puis la réhabilitation pour votre fille?
Dans le sens de jusqu'où ce qu'elle peut se rendre.
Au niveau physique, puis au niveau du langage et tout ça?
Bien, disons, nous, on l'accompagne vraiment pour le mieux. Fait qu'on continue, là, pour l'instant, on est vraiment fiers parce qu'elle est capable de faire son cursus scolaire dans une école spécialisée.
Ça, c'est incroyable. Fait que, là,
on est comme être en deuxième année, puis on est bien fiers de dire ça parce qu'on pensait même pas qu'elle irait à l'école.
Ouais.
Fait que pour nous, tu sais, on continue tant qu'elle est capable, puis tant qu'elle l'accepte, on continue à la pousser. Puis au niveau physique, bien, elle marche encore. Tu sais, elle a 7 ans, fait qu'elle est pas encore très grande. Fait qu'elle tombe de temps temps en temps, puis nous autres, on prend encore ça à la blague.
Ah, c'est un âge où ils tombent toute la gang. Là, oui.
Fait que je me dis, à 18 ans, mais qu'elle chute de même, je vais peut-être moins rire.
À 18 ans, ils chutent aussi, mais pour d'autres raisons.
Oui, c'est ça.
Des cas comme ceux-là, il y en a à grandeur de la province, puis de faire preuve d'un peu d'humanisme et d'humanité, ben, c'est se rendre compte que ces coupures-là, de la façon que ça a été fait, à la vitesse à laquelle ça a été demandé.
Sans zone grise, sans période d'adaptation, sans capacité de s'adapter à tout ça. Là.
Et le ministre qui a demandé tout ça, ben, il est rendu dans un autre ministère, puis c'est plus son problème, puis l'autre vient d'arriver, puis on est dans un drôle de timing. Puis je regardais c'était quoi la priorité du nouveau ministre, puis là on était rendu dans accords puis dans ponctuations. Je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je dis juste qu'on a peut-être des choses à régler avant de se rendre là, puis je trouve ça malheureux que ce soit des parents qui travaillent fort puis qui se dévouent cœur, corps et âme pour des enfants qui demandent énormément, qui soient pénalisés en premier. Moi, ça me choque, ça m'arrache le cœur. Puis je souhaite que ça débloque, je souhaite que vous ayez un retour, je souhaite qu'il y ait des dispositions. Puis des fois même, ça existe. Il y a peut-être des regroupements qui existent qui vont être en mesure de vous contacter. Si c'est pas dans le quartier, il y a peut-être des solutions. Je vous le souhaite de tout cœur.
Merci.
Annick, merci beaucoup d'être venue témoigner parce que ça en prend pour mettre en lumière justement ces chiffres-là. Sans ça, ça reste des chiffres. Annick Pitre, qui est la mère d'une petite fille qui a perdu une belle possibilité dans tout l'éventail des possibilités. Il y a des outils maintenant. Tu sais, on en parlait avec l'autisme ce matin. Oui. Le fait que maintenant, tu as des outils pour travailler, tu as des modes d'emploi, tu as des suivis qui peuvent se faire.
Ils peuvent les aider à progresser.
Puis les progrès peuvent être extraordinaires. Mais quand on dit, oui, il y a des outils, mais là, ils ne sont plus accessibles parce qu'on coupe ci puis qu'on coupe ça, on dirait que ça rend les choses encore plus choquantes quand tu sais que ça existe, mais tu ne peux pas y avoir accès. Ça mérite réflexion. Il est 15h43, on ne s'arrête pas longtemps. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
Gravel dans le retour.